Christine Mattet.
Vladimir Poutine a admis aujourd'hui que la défense aérienne russe était en action mercredi dernier au moment où un avion azerbaïdjanais tentait d'atterrir. Un appareil qui s'est écrasé peu après au Kazakhstan. Le président russe n'a cependant pas indiqué si l'avion avait été touché par ses défenses. Depuis le crash qui a fait 38 morts, les soupçons se portaient vers la Russie qui aurait pu abattre accidentellement l'avion. Si Vladimir Poutine n'a pas reconnu aujourd'hui la responsabilité de la Russie, il a néanmoins présenté des excuses à son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Et l'Union européenne appelle aujourd'hui à une enquête rapide et indépendante sur ce crash après que les États-Unis ont suggéré que l'incident pourrait avoir été causé par un missile anti-aérien russe. Une enquête a été ouverte par la police italienne sur des cyberattaques revendiquées par un groupe pro-russe. Des attaques qui ont visé plusieurs sites internet en Italie et tout particulièrement les deux aéroports de Milan et le ministère italien des Affaires étrangères. Ce groupe russe s'en prend aux institutions publiques et au secteur stratégique des pays de l'OTAN qui ont soutenu l'Ukraine dans sa lutte contre l'invasion russe. Le Sénat italien a adopté aujourd'hui en dernière lecture le budget 2025 avec des mesures chiffrées à 30 milliards d'euros. Plus de la moitié sont des baisses d'impôts et de cotisations sociales pour les revenus bas et moyens. Le gouvernement de la première ministre Giorgia Meloni s'est engagé dans le même temps à ramener le déficit public à 3,3% du PIB en 2025. Visée par une procédure européenne pour déficit public excessif, l'Italie est sous forte pression pour redresser ses comptes et réduire sa dette publique qui frôle les 3 000 milliards d'euros. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé a reconnu aujourd'hui avoir échappé de peu à la mort lors de frappes israéliennes jeudi sur l'aéroport de la capitale du Yémen tenue par les rebelles houthis. Tedros Adhanom Ghebreyesus a raconté à la BBC que ses oreilles bourdonnaient encore depuis l'attaque de jeudi alors qu'il s'apprêtait à embarquer dans un avion à Sanaa. Il était en visite au Yémen au nom du chef de l'ONU Antonio Guterres dans le cadre d'une mission pour obtenir la libération du personnel des Nations Unies détenu. Les houthis qui contrôle de larges pans du Yémen, dont la capitale, sont soutenus par l'Iran, ennemi juré d'Israël. Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas pour la bande de Gaza annonce qu'au moins 48 personnes ont été tuées au cours des dernières 24 heures dans ce territoire palestinien et un hôpital clé de Gaza est désormais fermé. Son directeur serait détenu selon des responsables locaux. En ski alpin, Alexis Monet a accueilli un premier succès en Coupe du Monde. Aujourd'hui, le Fribourgeois de 24 ans a remporté la difficile descente de Bormio en devançant de 24 centièmes le jeune Bernois Franjo Fonalmen. La météo, demain toujours du brouillard, parfois givrant sur le plateau en dessous de 700 mètres. Toujours le ciel bleu dans les autres régions. Très froid demain matin entre -6 et 0 degrés.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info. Infotrafic RTS.
Sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne, un accident survenu entre Rolles et Aubonne ralentit fortement le trafic en direction de Lausanne. Ailleurs, on circule toujours en accordéon sur l'A9 Lausanne-Martigny entre l'échangeur de la Vère et Montreux en direction de Martigny, ainsi que sur la 12 Fribourg-Vevey dans la descente dite du toboggan de Châtel-Saint-Denis en direction du Valais.
Ils ont entre 10 et 18 ans et prennent l'antenne pour la première fois.
C'est pas facile de parler dans un micro.
Venus de toute la Suisse romande, ils vous racontent ce qui les anime, les questionne, les bouleverse. Ils ont tout imaginé et vont sans doute vous étonner.
On fait de la radio comme des pros.
Une heure, une classe, un thème. C'est La Classe, du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier, dès 16h sur RTS Première et sur l'application Play RTS.
La Belle Échappée.
En nouvelle diffusion.
La Belle Échappée.
À Granda Fuja.
La Belle Échappée.
Güzel Kaçış.
La Belle Échappée.
Çudes Mutlu Kurtulmalı.
La Belle Échappée.
À Bonita Escapada.
La Belle Échappée.
La Belle Échappée. Christophe Canu.
Quiero hablar de José Vivar. Que ha dado de comer a Salina a miles de personas, a miles de familias, y que
Je voudrais parler de José Dubac, qui a donné à manger à des milliers de personnes, à des milliers de familles. Et il l'a fait non seulement en sachant tirer du lait avec lequel nous faisons du fromage, et du fromage de qualité supérieure, la meilleure valeur ajoutée possible, mais aussi en nous aidant à le vendre en dehors du village. Levons-nous et prions pour proclamer en chantant notre foi.
Un curé qui vante les mérites d'un fromager en pleine messe. Ça se passe comme ça en Équateur. En tout cas, dans la paroisse de San Inas de Guaranda, un village des Andes perché à 3300 mètres d'altitude. Et c'est d'autant plus surprenant pour nous que le fromager en question vient de Lucerne. Authentique. Mais quand on connaît son parcours, il n'y a pas de quoi s'étonner. José Dubac n'a pas hésité, lors de sa venue dans les années 70, à apprendre aux paysans locaux les techniques d'affinage qui étaient inconnues en Équateur. Résultat des courses, de nouveaux fromages inspirés du camembert, du parmesan ou de notre gruyère nationale ont fait leur apparition. Des fromages qui ont conquis le public et qui ont changé la destinée de cette région qui était jusque-là une des plus pauvres du pays. Pas étonnant d'alors que 50 ans plus tard, le souvenir de José Dubac reste très présent dans les esprits. C'est ce que l'on entendra dans le long métrage d'Éric Bézati. Mais avant ça, on aura droit à un court métrage, une autre histoire. Une histoire d'un reporter qui se demande quel impact sur la population peut avoir une œuvre installée sur un mur d'une rue de Sion présentant 11 espèces d'oiseaux menacées par les activités humaines. Et on entendra que même s'ils sont parfois pressés, les passants ne restent guère indifférents à leur sort.
La belle échappée.
La belle échappée.
Le labeur d'un fromager suisse pour que des équatoriens puissent mettre dans leurs épinards un peu de beurre, des oiseaux qui, dans les rues de Sion, lancent un cri d'alerte pour que les activités humaines ne courent pas à leur perte. On est comme ça, à la belle échappée. On partage la vie d'êtres vivants haut en couleur, qui mettent du corps à l'ouvrage et prennent les choses à bras le cœur, quitte à s'en mêler les mots et les pinceaux. Nathalie Schoenberg à la sélection des chansons, Mathieu Ramsauer à la régie, Christophe Canu au micro. Bonsoir. Poisson avec Sous les doigts.
La belle échappée.
Le court métrage.
Printemps silencieux, C'est le nom que l'artiste Maxence Neveu a donné à l'œuvre qu'il a créée en février dernier, puis exposée sur l'un des murs extérieurs de la librairie Payot de Sion. Une œuvre format XXL qui mêle dessin, photographie et texte et qui vise à attirer l'attention de la population sur 11 espèces d'oiseaux qui nichent et vivent en Valais. Menacées, fragiles, celles-ci sont en déclin en raison de l'activité humaine. Comment ? En est-on arrivé là? Qu'en pensent les passantes et les passants? C'est ce que l'on va découvrir en se posant devant l'œuvre le temps d'un après-midi de début juin. Donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, c'est le court-métrage du jour. Il est réalisé par Jean-Daniel Motet.
Je vais un peu regarder. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est une jolie fresque. C'est très visuel, déjà de voir les oiseaux, en plus c'est artistique, hein, ils sont peints. Le texte il est court et ça donne juste un petit peu la problématique que ces espèces d'oiseaux traversent en ce moment, en conflit avec nos activités humaines. Ah bon, le gypaète, celui-là, il revient là. Coupons les ailes des hélicos, sauf celles des secours. Le gypaète barbu a vu sa population se faire décimer parce qu'elle était qualifiée de diabolique, réintroduite, elle est maintenant en croissance, mais reste fragile. L'année dernière, un gypaète a été tué lors d'un accident en vol avec un hélicoptère. Bon, le lagopède, il y en a deux, trois que je connais, que je vois régulièrement en montagne aussi. C'est un peu une manière artistique de sensibiliser monsieur, madame, tout le monde qui passe là et puis qui regarde. C'est instructif aussi, parce que du coup, ça permet de mettre un nom sur un oiseau. Peut-être qu'il n'y a pas tout le monde qui sait. Voilà, typiquement, le petit gravelot, j'aurais pas su que c'est un petit oiseau comme ça. Ça informe, c'est informatif, ça sensibilise et puis je trouve ça bien. Je trouve qu'on devrait recouvrir tous les bâtiments, soit de fresques comme ça, soit de panneaux solaires.
Ouais, je trouve que la cause elle est bonne quand même, parce qu'il faut protéger la faune et la flore. Mais sinon, je trouve que pour la cause que c'est, qui est quand même pour l'environnement et protéger les oiseaux en Valais, c'est quand même mieux de faire quelque chose qui choque plus la personne qui passe.
On dirait que c'est fait par des enfants un peu.
Moi, je trouve que c'est quand même bien dessiné, franchement, à dire. Après, voilà, peut-être c'est vrai que l'écriture, peut-être qu'elle trompe un peu.
Moi, je pense que faudrait peut-être plus s'expliquer avec des images, au lieu d'avoir à chaque fin un texte qui explique un peu la situation. Parce que là, sur les images, on voit les oiseaux, mais on ne voit pas beaucoup plus.
Alors, c'est des pastels, mais plus précisément, c'est du néocolore. C'est vraiment les pastels pour les enfants en Suisse. Un peu, j'ai l'impression que tout le monde a grandi avec ça. C'est dans ces boîtes rouges et j'ai redécouvert le néocolor l'été dernier. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps à dessiner au néocolor. Mais je sais pas si je vois le côté enfantin. L'écriture qui est un peu maladroite, peut-être. Ça, c'est un peu comme j'aime bien écrire, mais parce que j'aime beaucoup l'art naïf. Du coup, j'écris un peu avec une typographie maladroite. Mais après, le visuel est assez doux, disons. C'est pas... Enfin, j'aurais pu choisir de mettre une immense photo d'un martin pêcheur écrasé sur la route. Ça aurait donné un autre effet.
Et pourquoi vous ne l'avez pas fait ?
Les oiseaux, c'est un truc qui me donne du souffle. Puis je pense que dans le combat que j'espère qu'on va mener contre cette crise mondiale qu'on est en train de vivre, il faut un peu garder d'espoir. Il faut un peu garder des jolies choses en tête, puis se rappeler pourquoi on a envie de se battre. Les images hyper violentes d'animaux qui sont en train de se faire égorger, ou... Moi, souvent, ça me donne un effet de « j'ai surtout pas envie de voir », parce que c'est trop horrible et on n'arrive pas à supporter ce genre d'image. Et je crois que le message, c'était aussi regarder tous ces animaux qui sont tellement précieux et qu'on aimerait garder. Et puis que c'est pour ça qu'on a envie de se battre.
Comment dire ? Quand je vois tout ça, je me pose aucune question. Mais faudrait. Mais...
Vous avez quel âge ?
17.
17, 18 ?
Ouais.
Les oiseaux, c'est pas vraiment ce que je connais le mieux. C'est, je vois qu'il y a encore des oiseaux qui volent au-dessus de nous. Et,
On en entend, là, d'ailleurs.
Ouais. Et du coup, je me pose pas trop de la question.
Par exemple, vous saviez que la pie grièche à tête rousse avait complètement disparu de Suisse ?
Non, même pas. J'avais aucune idée. Je savais même pas que ça existait plus.
Mais le fait qu'elle disparaisse, comme ça, a priori, ça change rien dans votre vie ?
Non, pas vraiment. Pour être honnête, non, pas du tout.
Je vis toujours normal, j'ai à manger, à boire. Ça ne m'a pas changé la vie non plus que cette espèce a disparu.
La pigrièche à tête rousse a complètement disparu de Suisse dans les dernières années. Le déclin des populations d'insectes, ben oui, et des vergers à haute tige est la cause de son extinction. Mais oui, mais oui, mais il n'y a pas que lui. Mais bon, regardez autour de nous, regardez le ciel. Tout est fait pour que tout meure. Il y a des cultures qui avancent, et là où il y a culture, ils mettent des pesticides, ils mettent des engrais, enfin des, tout leur truc là. Et le problème, c'est qu'ils coupent l'herbe, même le long des forêts, au moment où les fleurs poussent et vont fleurir pour les insectes. Comment voulez-vous que les insectes se nourrissent ? Mais si on fait l'effort de s'oublier, nous, êtres humains, en disant on va recréer des zones comme ici, il y a beaucoup, beau. On a été émerveillés de parcs, super, de jardins, j'ai même sauvé ici en rentrant à Sion, à l'hôtel, je vois un insecte courir, j'ai dit mince, qu'est-ce que c'est ? Et c'était un scarabée rhinocéros. Et ça, un scarabée rhinocéros ici, je trouve ça extraordinaire, sur un trottoir. Devant l'hôtel. Donc vite, évidemment, je l'ai sauvé pour pas que quelqu'un je l'ai mis dans une plate-bande. Parce qu'ici, il y a des plates-bandes. L'être humain, il fait partie de la chaîne. Et c'est ça, la beauté de la vie. On ne possède rien, mais on respecte tout. Il n'y a qu'à admirer, hein, c'est tout.
Il y a plusieurs oiseaux que, du coup, j'ai aussi découvert leur situation via des échanges avec des ornithologues. Ce qui nous a permis de choisir quel type d'oiseaux on avait envie, enfin j'avais envie de parler et quelle était leur situation et c'est comme ça que j'ai découvert la pigrèche à tête rousse que je ne connaissais pas parce qu'elle a disparu. Mais c'est un des ornithologues qui est aussi hyper triste qu'elle soit plus là et je crois que ça m'a touché de ressentir cette tristesse et du coup j'avais envie que cet oiseau soit là.
Regardez. Si vous regardez en bas à gauche, je vous laisse lire ce qui est écrit.
Le printemps silencieux arrive.
C'est le titre de l'œuvre.
Ça me fait penser à... c'était Rachel Carson qui a écrit The Silent Spring, quand il y a eu justement les oiseaux qui ont disparu suite à cette utilisation extensive du DDT, c'était un pesticide, je crois. Aux États-Unis, oui. Je pense que c'est une belle manière de sensibiliser ou d'essayer d'éveiller la conscience des gens à notre impact, sans être trop alarmiste ou effrayant. Et puis ça fait d'une manière où finalement la fresque, elle est jolie, les images, elles sont jolies. Ça donne envie de lire. C'est souvent que dans ces messages, aujourd'hui avec tous ces problèmes, l'impact que la société humaine a sur la nature et l'environnement, ça peut être vite alarmiste et puis ça peut être anxiogène et ça peut faire peur. Et là, ça l'est quand même, en fait, hein, indirectement. Personne n'a envie d'entendre un printemps silencieux ou ne plus avoir d'oiseaux. Mais en même temps, c'est fait d'une manière artistique qui est jolie, en fait, qui amène un peu de douceur au cœur, en fait. Et qui nous donne envie de dire, mais ce serait trop dommage que ces espèces, elles sont quand même assez emblématiques. Enfin, le gypète barbu, la gopette, c'est quand même des espèces assez emblématiques de nos montagnes. Ce serait dommage de plus les avoir.
Regardez le nom des animaux. La pigrièche, la citelle torchepeau ou le bruant zizi. Vous avez des noms extraordinaires. Ouais. Le gypaète barbu. Ben oui, pourquoi pas. Allez. Le tétralyre, hein, à cause de sa queue. Hein, parce qu'il fait comme ça, hein, il est extraordinaire celui-là. L'engoulevent d'Europe, là, j'ai jamais vu celui-ci. L'hirondelle des fenêtres. Alors là, les hirondelles, il y en a plusieurs sortes. Hein. Le petit gravelot, regardez comme il est extraordinaire sur ses pattes. C'est fabuleux, ça. Le lagopède alpin, jamais vu. Mais si, lui, c'est comme la perdrix des montagnes, je pense. Ouais, c'est la perdrix des montagnes. Le tarier des prés, c'est fabuleux. Et puis là, c'est quoi la petite duchesse scope. Non, ça, j'ai jamais vu non plus. Et puis le martinet noir, vous en entendez ici, hein. Voilà, mais tous ces noms d'oiseaux, mais c'est fabuleux. Donner un nom à tout être vivant, c'est déjà le positionner, le respecter, le reconnaître aussi, et pouvoir le protéger. Et puis bon, il ne faut pas avoir peur de la nature. Les gens ont peur de la nature, ils ont peur d'un insecte, ils ont peur. Alors tout de suite, il faut tuer. Non. C'est comme, si nous, on ne nous aimait pas, alors on nous tuerait tout de suite. Ben, là, un insecte, c'est pareil, il doit être respecté. On ne doit pas l'écraser bêtement. Hein. Moi, je n'aime pas les araignées. J'ai très peur des araignées. Mais jamais je n'écraserai une araignée. Je me dis, tu n'es pas capable de faire cette chose-là qui est extraordinaire. Donc tu dois la respecter.
Elle aime beaucoup regarder les images. Et puis je trouve qu'on n'est jamais trop petit pour apprendre certaines choses. Hein, Amy? Ouais, mais t'aimes bien. Hein.
Qu'est-ce que vous lui avez montré?
Elle aime bien. Ben, je lui ai montré justement le tétralyre. Et puis l'hirondelle, que je trouvais très belle. Et puis les quatre derniers, parce qu'elle a balané, donc faut pas exagérer non plus. Hein. Mais elle est très intéressée par les fleurs et par les animaux. Alors j'en profite, il faut donner.
Comment vous le savez, qu'elle ça l'intéresse?
Parce qu'elle regarde et puis elle manifeste. Alors on donne, et puis peut-être qu'on s'aime. Un jour ça va ressortir.
Quand ma petite fille était petite, elle avait quoi, 8 mois et demi, elle marchait à quatre pattes. Hein. Et tout d'un coup, j'entends comme ça, je suis mince. Bon, elle était dans la pièce à quatre pattes, avec une énorme araignée toute velue à côté d'elle, et elle caressait l'araignée. Je me suis dit, oulala, instantanément, je dis, tu fais rien, ma fille, parce que tu dois pas transmettre la peur. J'ai rien fait. Le bébé est parti d'un côté, l'araignée est partie de l'autre. Et aujourd'hui, ma fille sauve toutes les araignées du monde. Toutes. Donc, on est missionnaire de sauver la nature aussi, puisqu'on en fait partie. Comme elle, elle va nous sauver si on est gentil. Voilà.
Ouais, j'avais envie de recouvrir plusieurs problématiques nationales, mais aussi valaisannes. Et du coup, j'ai choisi les oiseaux par les causes de leur disparition. Du coup, on a 11 oiseaux et ça touche 11 domaines différents, dont le ski, la chasse, l'utilisation extrême des hélicoptères, le vin et le Rhône, comment il a été canalisé. Du coup, au travers de ces 11 problématiques, je donne des conseils qui sont très concrets, qu'on peut prendre chez nous et appliquer à notre quotidien, comme par exemple mettre des niches pour les martinets, les hirondelles de fenêtre, ou quand on se balade en hiver en montagne, faire très attention à ne pas aller sur les chemins qui ne sont pas balisés. Mais après, il y a des sortes de conseils qui sont des invitations au grand changement et à rejoindre des mouvements activistes et à ensemble secouer les forces qui maintiennent ce système de destruction de masse. À titre individuel, quand on regarde l'affiche, on ne peut pas les faire tout seul.
Je t'avais vu déjà plusieurs fois te mettre là puis regarder. Donc, je pensais bien que tu faisais partie du truc quand j'ai tourné l'œil. Vous venez souvent, c'est ça, pour voir un peu?
Non, mais comme je travaille à Sion, je passe. Des fois, je regarde la réaction des gens ou des fois, j'ai amené des amis pour voir la fresque. Et du coup, je me suis arrêtée pour voir ce que ça donnait.
Puis moi, j'ai passé aussi avec deux, trois amis qui n'étaient pas forcément dans l'art. Puis je dis, regardez, vous avez vu ce truc-là? Ah ouais, chouette, dis donc. Non. Puis après, ils commencent à lire. Ah ouais, c'est vrai qu'il n'y a plus. Il faut être curieux un peu. Et donc ça peut attiser la curiosité, donc bravo.
Et qu'est-ce qui vous touche, vous, dans cette présentation?
Moi, je connaissais un petit peu les disparitions, mais pas d'autant d'espèces. Donc c'est bien de les avoir tous sur le même tableau.
Et vous savez le titre de l'œuvre?
Le printemps silencieux arrive. Voilà. Il n'y a plus les bruits. Sur Sierre, par exemple, il y a des enregistrements des années 60, comme ça. On ne s'entendait pas parler au printemps dans la rue, à cause des rossignols. Maintenant, oui, ça peut nous mettre une forme de colère, en tout cas de révolte, parce que ça ne devrait pas être comme ça. Si les étudiants, par leur travail, ils montrent ça, puisqu'il y a quelque chose qui est dévoué pour eux, ben, au moins, on n'est plus dans le divertissement, mais on est vraiment dans l'art où on doit défendre quelque chose. On donne la parole à ceux qui ne l'ont pas. Voilà.
Merci beaucoup.
Je dois aller prendre un train.
«
donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, c'était le court-métrage du jour. Il était réalisé par Jean-Daniel Mottet. Et puisqu'on est du côté de Sion, une pensée à toutes celles et ceux qui ont été touchés par les intempéries, en Valais ou ailleurs.
Infotrafic RTS.
Sur l'autoroute A1, Genève-Lausanne, un accident survenu entre Rolles et Aubonne provoque toujours quelques ralentissements en direction de Lausanne. Et puis des ralentissements également à vous signaler en raison des départs en direction du Valais sur la 9 Lausanne-Martigny entre l'échangeur de la Vert et Montreux, donc en direction de Martigny. Et quelques ralentissements également sur la 12 Fribourg-Vevey dans la descente dite du toboggan de Châtel-Saint-Denis en direction du Valais.
Belle échappée.
Le long métrage.
Direction l'Équateur, ce pays d'Amérique du Sud traversé par la cordillère des Andes qui se trouve au bord de l'océan Pacifique entre la Colombie et le Pérou. Un pays peu sûr et même dangereux si l'on en croit la présentation qui en est faite par le département fédéral des affaires étrangères. Et pourtant, une initiative mérite qu'on s'y arrête aujourd'hui dans la Belle Échappée. Tout commence dans les années 70 avec l'avenue d'un fromager suisse à Salinas de Guaranda, un village des Andes équatoriennes perché à plus de 3000 mètres d'altitude. Intrigué par le projet coopératif de laiterie communale, il se rend vite compte que le seul fromage produit sur place, du fromage frais qui doit être consommé rapidement, ne permet pas aux paysans de vivre décemment de leurs activités. C'est alors que lui vient l'idée de leur apprendre des techniques fromagères qu'ils ne connaissent pas, mais qu'on utilise depuis des siècles chez nous. Le résultat dépasse ses espérances. Non seulement le public plébiscite ses productions à pâte dure, qui ne sont pas sans rappeler certains de nos fromages nationaux, mais aussi et surtout son initiative fait tache d'huile. Près de 50 années plus tard, le souvenir de José Dubac demeure. Il est toujours représenté avec un verre de vin blanc à la main, un pull rouge et un chapeau. Un portrait que l'on retrouve aussi bien au musée local que dans les boutiques El San et Leto, où l'on peut désormais trouver les différents fromages issus de la région. Le fromager suisse, les paysans équatoriens et la laiterie coopérative, c'est la grande histoire d'Éric Bézati, accompagné à la prise de son et à la traduction d'Isabelle Happy. Elle est réalisée par Jean-Daniel Mottet.
On a commencé la traite à 4h du matin. On est habitué à se lever à cette heure-là et après, on a jusqu'à 8h30 dernier délai pour amener le lait à la fromagerie.
Washington et sa mère Natalia se retrouvent tous les matins pour traire leur troupeau. Combien de temps dure la traite d'une vache?
7 ou 8 minutes.
Et toujours, ça se fait à deux personnes? Alors Natalia va nous expliquer que c'est chacun sa vache et que la traite d'une vache dure de 6 à 8 minutes. Les vaches ici, elles produisent entre 8 et 12 litres de lait par jour avec une double traite, le matin et le soir. Une traite qui se fait à la main d'ailleurs. Et ce sont des vaches qu'on appelle des vaches métisses. Donc des croisés de Brown Suisse, Jersey, Montbéliard, pour qu'elles puissent s'adapter aux conditions d'altitude et à la nourriture des Andes.
Nuestra quesera de aquí de la comunidad yacubiana es comunitaria, en cambio en otras queseras de otras provincias son personales que tienen y...
Notre laiterie ici, à Yacoubiana, est communautaire, alors que les fromageries des autres provinces appartiennent à des propriétaires, et ça fait une différence. Dans ce cas-là, ce sont eux qui fixent les prix, alors que, dans notre cas, tous les membres et producteurs sont unis et doivent se mettre d'accord sur le prix d'achat d'un litre de lait.
Qu'est-ce que vous faites là, actuellement?
Todas las mañanas.
C'est ça qui fait vivre votre famille?
Si.
Donc voilà, c'est la routine de Natalia tous les matins de venir traire ses vaches, puis de revenir à 10h pour en prendre soin, pour les soigner. C'est comme ça qu'elle fait vivre sa famille. Washington, quelle est la différence entre le travail qu'a connu votre mère et le vôtre actuellement?
Avant, chaque petit massif avait son propriétaire. Par exemple, ici, à Yacoubiana, l'ensemble des terres appartenait à la famille Chiribogas. Les terrains d'en face, où vit la communauté Ashpakoral, étaient à la famille Cordobès. Leurs membres étaient les patrons de nos aînés.
Grâce à ce que produisent les animaux de lait, nous survivons jour à jour.
Maintenant, nous avons nos propres animaux et grâce au lait qu'ils produisent, on peut voir passer des jours. Ce qui change tout, car avant, on ne pouvait pas vivre et on était obligé d'émigrer vers les autres provinces pour trouver du travail, même si le plus souvent, cela ne donnait rien. Mais maintenant, toute la famille peut rester et on s'en sort même un peu mieux qu'avant.
La fromagerie vous a aidé à racheter les terrains aux anciens propriétaires terriens ?
Si, par exemple, la caissera communitaria. Los socios entregan la leche, nosotros ayudamos a dar un certificado reconociendo la capacidad.
Oui, par exemple, grâce à la fromagerie communautaire, nos membres peuvent obtenir un prêt auprès d'une banque plus facilement. On peut leur fournir un certificat qui reconnaît leur capacité à nous livrer du lait régulièrement et ça compte vraiment devant un banquier. Et en fonction du prêt qui lui a été accordé, un producteur pourra acheter une ou deux parcelles. C'est le père Antonio qui est à l'origine de notre laiterie coopérative. Il est arrivé comme missionnaire et puis il est resté comme père de la paroisse de Salinas. Le père Antonio est venu avec un fromager technicien suisse qui s'appelait José Dubar. Ils ont alors fondé la première fromagerie en 1973. C'était au village de Salinas. Et puis, leur initiative a intéressé les autres communautés comme la nôtre. José Dubar est venu nous voir pour nous apprendre à faire des fromages à partir de recettes qu'il connaissait. Certains d'entre nous se sont pris de passion pour le métier et ont appris les techniques de fabrication. Devenus fromagers, ils continuent d'améliorer leur savoir et savoir-faire encore aujourd'hui. On a commencé avec seulement 15 litres de lait et aujourd'hui, on reçoit 2700 litres chaque jour.
Ayuda.
Sí, buenos días.
Buenos días.
¿Qué más voy a hacer?
Vamos a la quesera yacubiana.
Devant la fromagerie de Yacoubiana, il y a comme un parking d'ânes, de lamas, ou de petits camions, ou de 4x4, qui arrivent avec leur bidon de lait pour tout mettre à la fromagerie communautaire.
Don Raulito. Ven, don Jatit. Ahorita ya llegamos a la quesera a entregar la leche.
On vient d'arriver à la fromagerie pour livrer le lait. Elle regroupe 125 producteurs entre les papas, les enfants, les frères.
À quoi va servir votre lait et pour faire quel fromage ?
Bueno, ahorita entregamos este producto, la leche, y ahorita va para queso maduro que vamos a elaborar este día. Todo el queso maduro, los 270 quesos, va a salir de kilos de 2700.
Et bien maintenant, le lait va être utilisé pour en faire du fromage. Les 2700 litres de lait qu'on récolte chaque jour nous permettent de faire 270 kilos de fromage, que ce soit du fromage frais, andin, à l'origan, à l'adji, un piment équatorien, ou bien du semi-affiné. On fait aussi du camembert, du bleu comme le gorgonzola, du gouda, du tilsit comme on peut en trouver chez vous en Suisse, ou encore de la mozzarella.
Les fromages de Yacoubiana ont pris la route et arrivent ici
au centre du village de Salinas pour être commercialisé ou exporté partout en Équateur. Ici, tout est organisé à travers des fondations ou des entreprises coopératives pour organiser ça collectivement. Il y a une fabrique d'huile essentielle, une charcuterie, là une filature de laine, et là il y a la mine de sel qui a donné son nom au territoire. Aujourd'hui, Salinas, c'est un exemple de développement coopératif, mais il y a 50 ans, c'était plutôt connu pour la pauvreté, la mortalité infantile, l'illettrisme, et surtout pour le contrôle que la famille Cordobés de la Hacienda imposait à la population. Alors dans cette rue, là en bas, il y a la coopérative de distribution des fromages qui envoie les fromages à Quito, tout le reste de l'Équateur. Et juste au-dessus, il y a la Fonursal, une fondation qui gère l'activité de plusieurs entreprises coopératives. Et nous avons rendez-vous avec son directeur, Vinicio Ramirez. Son père, c'était un élève de notre fameux fromager suisse, José Dubac.
Buenos días, bienvenido a la Fundación de Organizaciones Campesinas de Salinas, la Fonursal.
Bonjour, bienvenue à la Fondation des Organisations Paysannes de Salinas, à la Fonursal. Entrez.
Quelle est la force des paysans de Salinas de Guaranda?
El 87% de la venta del queso llega al productor, porque...
87% de la vente du fromage revient au producteur. Tout simplement parce que le producteur est propriétaire de son lait. Si on regarde comment on en est arrivé là, il nous a fallu en premier sortir de la domination et de l'autorité de la famille Cordobés, qui était propriétaire des terres, de la hacienda. En second, il a fallu que les habitants apprennent à travailler ensemble, qu'ils commencent à penser collectivement, passer du « je » au « nous ». Enfin, il était indispensable qu'ils soient ouverts aux transformations, aux changements, et qu'ils soient capables d'adapter des techniques de production propres à leur territoire. Quand José Dubac est venu, il nous a montré la manière dont on faisait le fromage en Europe. Mais il a fallu qu'on l'adapte aux spécificités de notre pays. Le fromage andin est vraiment aujourd'hui un fromage propre à l'Équateur. C'est une sorte de mélange entre un fromage mi-affiné européen de type Saint-Paulin et un fromage frais. C'est vraiment une création des Andes qui prend en compte les caractéristiques du lait, de la saison et son altitude de production.
Y el paladar del ecuatoriano que todavía en los años 70 no estaba.
Le palais de l'équatorien dans les années 70 n'était pas encore prêt, pas adapté à la consommation de fromages européens. Alors on a dû faire des mariages d'un fromage frais et d'un fromage demi-affiné européen est né l'andin.
Vous avez connu José Dubac et quels souvenirs vous en avez?
Bueno, yo me acuerdo una persona sencilla pero recta.
C'était une personne simple, mais droite. Il avait un fort caractère, mais il savait rester simple dans la façon de faire et de dire les choses. José Dubac, en nous initiant à la production de fromages d'origine européenne, comme le tilsit, le dambo, le gruyère, le parmesan ou la mozzarella, nous a permis d'avoir une autre vision, une autre approche de fromagerie. Quand il est arrivé, il nous a enseigné les bonnes pratiques de fabrication, de contrôle de qualité, d'innocuité alimentaire, tout en nous invitant à faire de plus gros fromages. L'activité de la fromagerie a vraiment été un moteur et reste un axe principal de l'économie de Salinas.
En quoi l'exemple du fromage a été suivi pour d'autres entreprises à Salinas?
En Salinas, nous avons plus de 45 entreprises, incluidas las de las comunidades.
Nous avons plus de 45 entreprises dans la région de Salinas, en comptant celles des communautés. Tout est parti du fromage, de la fromagerie. C'est pour ça que nous parlons de moteur. La première chose fondamentale que ça a permis, c'est de créer du travail pour les gens d'ici.
Éviter les intermédiaires que pagaban precios injustos de las materias primas.
La seconde, d'éviter les intermédiaires qui achetaient les matières premières à des prix injustes. Et la troisième, de valoriser en la transformant la matière première. Or, il se trouve qu'ici, chaque indigène, chaque paysan avait quelques moutons et ne savait pas quoi faire de la laine. Et nous, on s'est dit qu'avec la laine, on pouvait faire des fils et à partir de là, des pulls. C'est comme cela qu'est née ici la filature. Je crois que c'est unique. Car il y a de grandes fondations dans le pays, mais elles travaillent souvent avec des projets étrangers et quand le programme se termine, il n'y a plus rien. Alors que nous, on accompagne les organisations communautaires depuis 50 ans en utilisant nos propres ressources générées par des entreprises qui nous appartiennent.
Camino a Carapungo voy, indio de llano grande soy, la flor innata soy de aquí, como de mayordomo estoy, me llaman Sumiruco a mí. En mi pueblito me hago ver, que sé cantar y sé querer, Sumiruquito por acá, Sumiruquito por allá, santito donde te pondré. Chulitos hay que aprovechar, amores no hay que devolver. Cuando uno en apogeo está, se prestan hasta por maldad. Si miruquito por acá, si miruquito por allá, qué rico el indiecito está. Camino a Carapungo voy, indio de llano grande soy, la flor innata soy de aquí, como de mayordomo estoy, me llaman Sumiruco a mí. En mi pueblito me amo ver, que sé cantar y sé querer, Sumiruquito por acá, Sumiruquito por allá, santito donde te pondré. Amores no hay que devolver, cuando uno en apogeo está, se prestan hasta por maldad, si miruquito por acá, si miruquito por allá, qué rico el indiecito está.
Gia Villarroel avec El Sumiruco. Aujourd'hui, dans la Belle Échappée, on est donc en Équateur et plus précisément dans la région de Salinas de Guaranda, un village des Andes perché à 3300 mètres d'altitude. Dans ces territoires longtemps dirigés d'une main de fer par quelques familles, les éleveurs, on l'a entendu dans la première partie du reportage d'Éric Bézati, sont en train de se réapproprier leurs terres et de multiplier la création de laiteries coopératives un peu partout dans la région. Et dans ce renouveau, il y a un nom qui revient sur toutes les lèvres, ou presque, c'est celui de José Dubar, ce fromager lucernois qui a vécu dans la région à la fin des années 70 et dont les enseignements, on l'a entendu aussi, ont changé la destinée de toute une région. 50 ans après sa venue, les habitants continuent d'affirmer que notre compatriote a été l'un des pionniers du développement des coopératives à Salinas de Guaranda, et même Dieu en personne, enfin presque, on retrouve Eric sur place.
Dimanche matin, Salinas de Guaranda, place centrale. Il y a la boutique de produits artisanaux qui est ouverte. Il y a quelques lamas qui attendent les touristes là, juste devant les grandes lettres Salinas. En Équateur, il y a des grandes lettres comme un peu Hollywood sur chaque place centrale de village. Et le son de l'église arrive jusque dans la place centrale. Et on va faire un peu comme tout le monde. On va aller dans l'église écouter le père Antonio Polo, qui est là depuis 50 ans et qui est l'âme et la mémoire du village.
Ah. quiero hablar de José Dubach ya, que ha dado de comer a Salinas a miles de personas, miles de familias, y que
je voudrais parler de José Dubach, qui a donné à manger à des milliers de personnes, à des milliers de familles. Et il l'a fait non seulement en sachant tirer du lait avec lequel nous faisons du fromage, et du fromage de qualité supérieure, la meilleure valeur ajoutée possible, mais aussi en nous aidant à le vendre en dehors du village. Il nous a vraiment appris à faire cela au mieux, et grâce à son génie, l'argent s'est mis à entrer dans nos caisses. Avec ce sens de dignité du travail, parce que la valeur ajoutée, ce n'est pas seulement ce qui s'ajoute au lait, c'est l'honorabilité, c'est créer de la convivialité, nous encourager à nous aimer toujours un peu plus les uns les autres. Je dis souvent, là où il y a une fromagerie, et grâce à Dieu il y en a dans quasi toutes les communautés de Salinas, les gens ne peuvent pas se détester, parce qu'ils sont obligés de se rencontrer deux fois par jour. La première au moment de livrer le lait, la deuxième le soir, quand ils viennent chercher le petit lait qui nourrit les cochons. Que le Seigneur soit avec vous. La bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, descendent sur nous. Joyeux dimanche à toutes et tous.
Alors, on est invité à aller parler avec le padre, Padre Antonio Polo, à sa maison, qui est mitoyenne de l'église. Et sa maison, là où il vit, c'est la première fromagerie du village.
Hola.
Donc là, on est dans la cuisine et la salle à manger du père, où il y a beaucoup de monde. C'est un lieu de vie où beaucoup de monde se rencontre. Bien sûr, sur les murs, il y a le portrait de José Dubach avec son chapeau, sa barbe blanche et son verre de vin blanc à la main. Est-ce que vous pouvez raconter l'arrivée de José Dubach à Salinas?
Comment a llegado? José Dubach tenía un encargo de la FAO y de Cotex.
José Dubach était missionné par la Coopération internationale suisse de développement. Il devait voir si c'était possible de faire des fromageries rurales en Équateur. Il avait travaillé au Népal, il avait travaillé au Pérou, et il devait tenter de faire pareil ici. José Dubach est arrivé à Salinas un jour de grand soleil. Il a demandé un bon cheval pour pouvoir faire le tour de la région. Les habitants lui en ont donné un. Il s'est alors lancé dans l'étude de faisabilité, et il a conclu son état des lieux en disant « Ici, nous allons faire la première fromagerie rurale d'Équateur ».
Quelle place prend le fromage dans l'histoire de Salinas de Guaranda?
Je crois qu'on ne serait pas sorti réellement de l'esclavage de l'hacienda s'il n'y avait pas eu un modèle alternatif. Avant, l'exploitation de la mine de sel, par exemple, se faisait sous l'autorité des patrons. Mais avec l'organisation de la récolte, puis de la transformation du lait sous forme communautaire, la destinée de Salinas a radicalement changé.
Est-ce que vous pouvez raconter le jour où vous êtes arrivé à Salinas et la situation que vous avez rencontrée?
Il y avait 30 petites maisons en terre d'où sortait de la fumée, des fumées qui finissaient par s'unir en une colonne unique qui montait jusqu'au ciel. C'était quelque chose de grandiose qui m'a touché le cœur. Mais après, quand je suis allé rencontrer les habitants de ces jolies petites maisons qui s'intégraient parfaitement au paysage, j'ai découvert une triste réalité. La fumée qui en sortait était insupportable. Les gens vivaient les uns sur les autres. Il manquait de tout. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'était leur soumission, parce que chaque maison abritait une petite fabrique de sel. Mais pour qui produisait-ils? Pour les patrons. Eux survivaient et les patrons touchaient les bénéfices.
Ah, on rentre dans la chambre du père, mais la chambre est aussi un bureau. Un bureau, une bibliothèque remplie avec son livre « La Laguna de los Sueños », « La Lagune des Rêves ». Quand vous êtes arrivé, on parle de situation de semi-esclavage du peuple de Salinas de Guaranda sous l'autorité de la famille Cordobés qui avait une hacienda ici.
C'était une situation héritée de la colonisation. Quand l'Équateur s'est libéré des Espagnols, ce sont les grandes familles puissantes de l'Équateur qui ont pris le pouvoir. Et elles n'ont fait que reproduire, poursuivre simplement le même style de domination que leurs prédécesseurs sur le peuple, surtout avec les paysans équatoriens. Avec le même état d'esprit, dominer, profiter, concevoir certains êtres humains comme de la matière première au profit de son bien-être personnel, mais pas du plus grand nombre.
Père Antonio Polo, l'Église a changé de rôle. Avant, elle servait
à justifier le fait colonisateur, à servir les intérêts des propriétaires terriens. Et à votre arrivée, c'est tout l'inverse. Vous avez aidé les communautés à se libérer de l'oppression des propriétaires terriens.
Cuando en Salina se cayó la iglesia de tierra.
À mon arrivée, l'église en terre s'était effondrée. Les autorités ont alors décidé d'en construire une nouvelle en briques. Des membres de la famille cordobaise qui dirigeaient la région sont allés voir Monseigneur Rada, l'archiprêtre de Guaranda, qui a créé le Fonds équatorien pour le développement des peuples. Les Cordobaises sont allés le voir avec beaucoup d'argent, 10 000 sucres équatoriens, l'équivalent de 10 000 dollars actuels, pour aider à la reconstruction de l'église. Mais Monseigneur Rada a dit « Non, je ne peux pas recevoir cet argent parce qu'il est le fruit de la sueur et du sang des personnes que vous exploitez. » Il faut dire que c'était après le Concile Vatican II qui, dans les années 60, a donné un virage social à l'église. Cette réponse a entraîné un changement frontal.
El descanso para que te eches un traguito con estas músicas lindas.
Changement d'ambiance, nous voici maintenant dans les rues de Quito, la capitale. Alors c'est rigolo ici, devant chaque commerce, vous avez une enceinte qui joue de la musique.
Verde, maduro, un dólar, el montón, un dólar.
Venga, si hay desayunos. Venga, los desayunos con colada de machaca, chocolate, maicena, leche. Venga a servirse un buen desayuno, unos 50 pases. Si hay caldo de gallina, secos de pollo del campo, a unos 50. Venga a servirse jugos naturales, ensalada de frutas. Pase, venga a servirse un buen desayuno.
Alors là, il y avait Elsa, du marchand de jus de fruits, qui a tiré le chaland en criant, en proposant des petits déjeuners complets à 1,50$. Salade de fruits et plat de poulet compris. Mais c'est pas pour ça que je suis venu à Quito, c'est plutôt pour voir ce bâtiment où il y a marqué FEP dessus. FEP pour Fundo Ecuatoriano Populorum Progreso, ce qu'on pourrait traduire par Fonds équatorien pour le développement des peuples. Et aujourd'hui, la FEP, c'est une des plus grandes ONG du pays. Et on a rendez-vous avec un de ses responsables historiques.
Bonjour.
Encantado.
Bonjour. Buenos días.
Buenos días.
Vamos al FEP.
Allons au FEP.
Donc là, il y a une petite officine de la banque. On monte les escaliers, il y a des salles de réunion.
El FEP nace en 1970 para luchar.
Le FEP est né en 1970 pour lutter contre la pauvreté avec des ressources économiques, des crédits bancaires et des financements. Et pour lutter contre les usuriers qui étaient très présents.
Los usureros arruinaban la economía de la gente que tenía necesidades.
Les usuriers ont ruiné l'économie des gens qui étaient dans le besoin.
Hemos trabajado mucho como FEP para que las tierras pasen a mano de los que las trabajan.
Le FEP a beaucoup œuvré pour que les travailleurs deviennent propriétaires de leurs terres. 1,5 million d'hectares sont ainsi passés aux mains des paysans et des indigènes. Et on a réussi à faire cela pacifiquement, avec non seulement des instruments juridiques et économiques, mais aussi en négociant.
Salinas est un grand trésor pour l'Équateur, parce qu'il démontre ce que, avec des paroles,
Salinas est un grand trésor pour l'Équateur, car il témoigne d'une réussite concrète qui vaut tous les discours. À Salinas, on peut dire que l'organisation sociale et économique fonctionne. L'exemple du prix du lait est intéressant et j'en profite pour dénoncer un scandale. À Salinas, le litre de lait est presque payé le double de ce que paye Nestlé en moyenne aux producteurs en Équateur.
Qui paga 25 centavos de dollar el litro de leche.
25 centimes contre 44-45 centimes pour la coopérative.
O sea, la utilidad es toda para los productores y para proyectos comunitarios. Estos son otros.
Ce n'est pas possible. Les bénéfices doivent être pour les producteurs et les projets communautaires. C'est cette idée qui est née à Salinas, qui s'est concrétisée avec Joseph Dubac et qui s'est propagée. Après le lait, on a revu la filière de production de grains pour tirer une plus-value de leur transformation en farine avec des moulins. Pareil avec les fruits et la mise en place de fabriques de confitures, ou encore la viande avec sa transformation en charcuterie. Salinas montre que c'est possible et on veut vraiment que ça serve d'exemple dans tout le pays. On continue inlassablement de colporter ce message. Et si de petites Salinas se multiplient en Équateur, le chemin ne peut être que positif pour l'avenir.
Aujourd'hui, l'Équateur vient de signer un traité de libre-échange avec la Chine. Les jeunes partent de plus en plus pour vivre le rêve américain. Est-ce que l'économie sociale et solidaire est assez forte pour lutter contre ces mécanismes?
Los acuerdos de libre comercio no los quiere el pueblo, los quieren.
Le peuple ne demande pas des accords de libre-échange. Ce sont les grands importateurs et les exportateurs qui les désirent, car ce sont eux qui en bénéficient. Nous, nous voulons des accords de commerce justes, pas de libre-échange. Dans le libre-échange, tous les acteurs n'ont pas la même force. La Chine est bien plus puissante que l'Équateur. Les autorités chinoises nous imposent ce qu'elles veulent. Elles peuvent faire des politiques de dumping sur les prix pour positionner ici leurs produits. C'est ce qui s'est passé avec d'autres accords de libre-échange et ça a détruit les capacités locales de production. L'immigration est aussi un drame pour nous. Les jeunes qui vont rejoindre les bandes criminelles, ça me préoccupe beaucoup. Ils sont près de 50 000, c'est un chiffre énorme. Et c'est pour ça que le travail de nos différentes organisations est important. On essaie de montrer aux jeunes qu'un autre chemin est possible, qu'il existe d'autres propositions. On peut leur proposer des financements, des formations, des aides pour mettre leurs produits sur le marché. C'est aussi à ça que renvoie le succès de Salinas, la possibilité de transmettre un autre message à tous ceux qui veulent bien s'y intéresser.
Il y a comme une lutte de David contre Goliath dans l'économie mondiale, avec l'économie sociale et solidaire, avec des exemples comme Salinas. Et la marche du monde avec les gouvernements qui font de plus en plus de traités de libre-échange.
Pero yo creo que David va ganar la lucha, ¿no? Ya. Yo tengo confianza.
Je crois que David va gagner le combat. J'ai confiance. Les chiffres sont parlants. L'Équateur a 18 millions d'habitants, mais nous, nous travaillons avec 150 000 familles, des familles rurales qui ont chacune 5 membres en moyenne. Ce qui fait 750 000 personnes si on ajoute les emplois indirects qui découlent de leurs activités. Ça fait donc près de 8 millions de personnes, soit la moitié de la population équatorienne, qui fait partie de l'économie populaire et solidaire.
O sea, todos hacen, desde quien te ayuda a llevar la maleta, desde quien te limpia el vidrio del carro, desde quien...
Elle comprend aussi bien la personne qui vous aide à porter la valise que celle qui nettoie la vitre de votre voiture ou encore celle qui propose un quelconque service. En Équateur, il y a beaucoup de malnutrition qualitative, mais pas de faim quantitative. On ne meurt pas de faim en Équateur. Quand nous avons commencé, la pauvreté extrême touchait 80% de la population équatorienne. Aujourd'hui, nous en sommes à 30%.
Pobreza en Ecuador significa gente que tiene menos de $2.50 por día para vivir. Esto lo digo porque
être pauvre, cela signifie ici vivre avec moins de $2.50 par jour. Je dis cela parce qu'en Europe, celui qui a moins de 30 euros par jour pour vivre est considéré comme pauvre. Aujourd'hui, la pauvreté a énormément diminué, donc on est sur la bonne voie qui devrait nous conduire à la paix puis au bonheur.
En Salinas.
À Salinas, vous avez dû entendre cette phrase.
L'objectif final du développement est querernos más, ser felices y vivir en paz.
Le but ultime du développement, c'est de nous permettre d'être plus heureux, de nous aimer les uns les autres et de vivre en paix.
C'est joliment dit. Le fromager suisse, les paysans équatoriens et la laiterie coopérative, c'était la grande histoire d'Éric Bézati, accompagné à la prise de son et à la traduction d'Isabelle Happy. Elle était réalisée par Jean-Daniel Motet.
La belle échappée.
La belle échappée.
Cantando, llorando.
Samedi prochain, on se rendra en Allemagne pour faire la connaissance du premier maire d'origine syrienne et ancien réfugié politique à avoir été élu. On est comme ça à La Belle Échappée. On arrive à se fondre dans l'actualité, mais en faisant un pas de côté.
La Belle Échappée.
La Belle Échappée.
L'heure avec RTS Première.
Vous écoutez RTS Première, il est 17h.